Bienvenue pour Vivre en couleur, une émission présentée avec Béatrice Vial-Collet. Bonjour Béatrice.
Bonjour Cathy, bonjour tout le monde, bienvenue à Vivre en couleur.
Rose et doré, vous allez nous mettre le cœur en fête. Alors commençons d'abord par le rose. Rose, c'est saumon, les grenadines, barbe à papa, guimauve, layette, rose fleur, nuage couchant. Mais au fait, est-ce que le rose est vraiment une couleur ? Ni une primaire, ni une secondaire. Alors, quelle est-elle ?
Eh bien oui, vous posez la bonne question, Cathy. Et beaucoup se la sont posées avant vous. En fait, les théoriciens de la couleur au XIXe siècle considèrent que c'est juste un mélange de rouge et de blanc. Pour eux, ce n'est pas vraiment une couleur. Parce qu'il existe beaucoup de nuances de rose. Rose bonbon, rose dragée, coquille d'œuf. Mais est-ce que le rose contient forcément du blanc ? Voilà la question. Parce que si on pense aussi au magenta, vous savez, cette couleur qu'on charge dans l'imprimante, qui nous apparaît rose fuchsia, c'est une des trois couleurs primaires de la synthèse soustractive. En conséquence, comme on l'a vu dans l'introduction de notre émission Vivre en couleur, elle n'est pas reproductible par simple mélange de rouge et de blanc. Et le physicien Jean Ray, lui de son côté, le considère comme un bâtard du rouge triomphant. Pour les physiciens, ça n'est qu'un rouge désaturé, un espèce de sous-rouge, quoi. Une couleur fragile et éphémère. C'est vrai que si on se rappelle le vieux rose, le bois de rose, ça correspond plus à un rouge délavé que l'usure aurait atténué, un espèce de vieillissement aurait atténué. Alors, bien sûr, il existe des roses colorées qui sont plus ou moins appréciées, comme le rose pêche, par exemple, pâle et doré. Eh bien, on lui assimile une douceur veloutée. Il a une connotation très valorisante, plutôt chic. Alors que le magenta dont on parlait, eh bien, lui, il n'est pas du tout aimé. Hein. Et le rose saumon, effectivement, lui aussi, est très bien connoté. Il est rare, il faut noter qu'un animal donne son nom à une couleur, comme c'est le cas en l'occurrence, et ce rose saumon tire vers l'oranger, ce qui lui donne peut-être justement cette espèce de tendresse.
Alors j'ai vu au Danemark, quand j'y étais, qu'il n'était pas apprécié, parce que les Danois reprochent aux Norvégiens de colorer leur saumon en rose, tandis que le saumon danois n'est pas coloré en rose. C'est une question de concurrence, là. Est-ce que le rose a toujours existé ?
Alors, cette histoire du rose est très amusante, parce que très vivante. Tour à tour, il va émouvoir, troubler, choquer, et finalement devenir la couleur in, celle de l'optimisme. Au début, il a une existence toute timide jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Dans l'Antiquité, notamment, pendant longtemps, le rose n'a pas d'existence définie. On disait incarnat, c'est-à-dire couleur de chair. C'est de cette façon qu'Homer place le rose dans la subjectivité et la poésie. Et pour parler de couleur rose, eh bien, on évoquait plutôt du rouge blanc ou du rouge clair. Incarnat donc. Alors déjà, le rose dit la chair, la sensualité, la nudité. Et le rose reste la couleur organique par excellence. On considère en médecine que la couleur rosée de certains organes, comme la langue, est un signe de bonne santé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de notre bébé Cadom, joufflu et rosé, dont on voyait une grande image publicitaire. Eh bien, c'était l'image d'un beau bébé. Ce qui n'est du reste pas tout à fait faux, puisque cette couleur rosée est due à la circulation capillaire du sang, qui se fait sous la peau translucide. Alors justement, en latin, rosa est proche de rose, la rosée, d'où la notion de régénération. C'est dire que le rose a sa place dans le domaine de la santé. Par exemple, le rose est associé à la lutte contre le cancer du sein. Octobre rose a été un mois de promotion du dépistage du cancer du sein. Et le pic du midi a été illuminé en rose, en signe de solidarité. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ces images-là, mais si ce n'est pas le cas, précipitez-vous sur Internet, parce que c'est absolument magnifique et magique. Et la chaîne Rose est un site qui recueille les témoignages à ce propos. On connaît aussi les blouses roses qui s'occupent des malades et des personnes âgées. Alors avant le Moyen-Âge, si le rose avait une existence timide, c'est que on ne savait pas bien fabriquer les beaux roses. La teinture se faisait à partir d'un bois importé d'Inde et de Sumatra. Elle est longue et coûteuse, et de plus son résultat est assez fragile, subtil mais fragile. Au XVIe siècle, par contre, c'est avec un bois d'Amérique du Sud qu'on va obtenir des roses de meilleure qualité. Enfin, il faut attendre le XVIIIe avec le romantisme. C'est le romantisme qui va donner aux roses sa symbolique. Alors, la symbolique, c'est quoi ? C'est une image de douceur affective, de tendresse, de féminité. Ce qui fait bien évidemment du rose la couleur de la petite enfance. Celle des sucreries. On voit les dragées, les guimauves, les barbes à papa, comme vous disiez, Cathy, au début. C'est celle de la jeunesse. Vous vous souvenez de nos buvards, de la bibliothèque rose. On considère, et là je vais peut-être faire hurler certains, que le rose est la couleur des filles, par opposition au bleu, celle des garçons. Vous voyez là les layettes, les tutus et les robes des petites filles, les blouses Vichy des écolières. Et cette tradition est bien tenace, même si elle évolue. C'est qu'elle fait écho au très solide couple rouge-bleu qui se met en place au XIIIe siècle. Vous savez, on l'a vu quand on a évoqué le rouge puis le bleu. C'est-à-dire que face au bleu s'impose bien évidemment son contraire, le rouge pastel cette fois, c'est-à-dire le rose. Le côté pastel reflète ici la pureté et l'innocence. Alors cette layette rose, eh bien, elle apparaît, comme la bleue, hein, à la fin du 19e en Europe occidentale et aux États-Unis. Alors c'est amusant de noter qu'en Espagne, en Italie, elle peut être rouge et non rose. Et en Belgique, ce sont les garçons qui sont vêtus de rose, s'il vous plaît. L'innocence de notre enfance, donc. Bien évidemment, cette couleur rose, elle est rassurante, relaxante. Le rose éveille un désir d'harmonie et de paix. Tout n'est pas rose, veut dire tout n'est pas gai. Il incite à la délicatesse et représente le plaisir de vivre, le bonheur. Vivre sur un petit nuage rose. Voir la vie en rose, hein, c'est être joyeux, optimiste face à l'avenir. Et vous vous souvenez d'Edith Piaf qui chante, attendez, est-ce que j'essaye ? Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Je m'arrête. Oui, le rose symbolise le romantisme et l'amour. Saint John Perse nous dit, la mer est rose de luxure, son plaisir est matière à débattre.
Dans la liturgie, d'ailleurs, le rose a une place particulière puisque c'est la couleur du 3e et du 4e dimanche de l'Avent, une période en principe de pénitence où les habits des prêtres sont plutôt violets. Mais ces deux dimanches annoncent déjà, à travers cette longue période d'attente, la rosée du Sauveur, c'est-à-dire qu'on attend le Sauveur comme la rosée qui féconde la terre. Et on retrouve cette couleur liturgique lors du 4e dimanche de carême, appelé dimanche de laetare, c'est-à-dire dimanche de la joie, car c'est une période de pénitence. On attend la mort du Christ, mais au-delà de la mort, on attend aussi sa résurrection, comme l'aurore. Et c'est pourquoi on a des vêtements roses pour la messe à ce moment-là. Et que dire du rose dans le domaine profane, alors ?
Oui. Alors, justement, c'est très très curieux, le XXe siècle va se charger de basculer le rose de la candeur à la perversité. Cette modernité fait évoluer le symbolisme du rose vers tout ce qui a trait à la séduction, au plaisir sexuel, à l'érotisme. Vous vous souvenez du carré rose pour les films pornographiques, le téléphone rose, la messagerie rose. Le rose tentation dit l'intime, le sexe, le tabou, et avec le scandale des ballets roses de 1958, la sexualité tarifée, les sexes chopent. Le rose va être peut-être la couleur des excès, des abus, tels ceux des paradis artificiels qui font voir des éléphants roses. Il a même été symbole de persécution quand la communauté gay s'est réappropriée le triangle rose qu'ils ont été contraints de porter pendant la Shoah. Elle a choisi ensuite le drapeau arc-en-ciel qui symbolise, lui, la diversité. Il faut dire aussi que le rose illustre la mièvrerie dans ce XXe siècle, un roman, un film à l'eau de rose et bon enfant, sentimental. L'expression, en fait, date du XIXe.
Et alors aujourd'hui, le rose n'a-t-il pas au contraire pris la vedette ?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le rose est vraiment réhabilité, et ce pour plusieurs raisons. Le premier facteur est la mode vestimentaire, qui réintroduit le rose. Elsa Schiaparelli, dans les années 30, avait pris pour emblème de sa maison de couture le rose chacune. hyper éclatant. Il évoque le caractère avant-gardiste et extravagant de ses créations. Vous savez, il en avait créé certaines avec Dali. Et je vous conseille à nouveau, si vous ne les connaissez pas, d'aller les voir sur Internet. C'est absolument extraordinaire. L'adjectif est encore utilisé, ce rose shocking, pour parler de cette teinte de rose chaud. Alors, deuxième facteur, c'est le disco qui promeut le rose. Les jeunes qui font de la musique tectonique s'habillent et s'entourent de rose flou et de noir. Vous avez peut-être vu le Soldat Rose, dont on peut voir maintenant la suite, très jolie, où le rose est vedette. Et puis, il y a aussi les mangas et les BD japonaises qui ont introduit une mode de rue qui prône une tenue vestimentaire très excentrique avec un esprit enfantin. Le but du jeu est de ressembler à une espèce de poupée de verre, un chewing-gum, un malabar rose, vous voyez. Et les jeunes japonaises habillées en rose, à l'image des mangas, reflètent cette ambivalence. Petite fille bien sage qui, dans le même temps, veut se faire remarquer par une tenue décalée et sensuelle.
Ambivalente comme le rose, qui a donc son ambivalence comme toutes les couleurs.
Voilà, nous y voilà. En effet, ce rose, c'est la couleur de l'entre-deux, du double. Cette couleur donne lieu à des interrogations sur l'identité, les apparences, le genre. Et son ambivalence s'illustre dans ses extrêmes, du rose pastel, bonbon, au rose shocking dont on parlait, qui est choisi par des personnalités excentriques, célèbres comme Barbara Cartland, l'impératrice rose, et des groupes provocateurs comme les hippies, la musique psychédélique, pop et rock. Et le rose peut aussi signifier l'opposition, comme l'a fait la robe de mariée de Brigitte Bardot qui nous dit « J'avais ce jour-là une robe en Vichy à carreaux rose et blanc faite par Réal ».
Eh bien, elle en a fait du bruit, cette couleur, dont certains se demandaient si elle existait.
Oui. En conclusion, j'ai envie justement de vous parler de la façon dont la Ligue des optimistes en Belgique vit ce rose. Elle en a fait sa couleur partout, dans l'écriture, les locaux, les voitures, les badges, etc. Tout est rose. Et cette Ligue des optimistes s'entraîne au bonheur en chantant. Elle véhicule sa philosophie à travers différents événements et elle ambitionne justement de créer un nouvel état, l'optimistan. Vous savez que Mathieu Ricard, Eric Emmanuel Schmitt, Emmanuel Barre en font partie. Alors, pourquoi pas comme eux, vivons le rose, optimiste et joyeux. Oui, j'ai envie de croire que le rose peut nous aider à vivre la phrase de Tolstoï. Si vous voulez être heureux, soyez-le.
RCF Charente-Maritime, un programme aux couleurs de la vie.
Si certains de nos auditeurs prennent l'émission en cours de route, je rappelle que nous sommes avec Béatrice Vial-Collet pour une émission qui s'intitule « Vivre en couleurs ». Alors nous passons au doré et je voulais faire allusion à Yves Klein qui a toujours pour nous l'image d'être dans le bleu, mais il a fait un ex-voto dans un couvent de l'Italie et qui représente deux cubes, un rose et un doré. Voilà, la transition est patente pour passer au doré maintenant qui brille dans la nature comme dans l'imaginaire. Alors le doré, on ne reste pas indifférent, il fascine. Il agace. D'aucuns diront même que ce n'est pas une couleur. On peut en effet considérer le doré comme du jaune ou du brun qui brille. C'est le mort doré. Certes, il n'y a pas de doré sans lumière, car le doré brille comme...
Oui. Il brille comme le soleil, comme la lumière. Parce que soleil et or sont effectivement longtemps associés. Le mot or lui-même vient du latin aurum, qui signifie aussi aurore. L'or vient de la terre, mais évoque le soleil. De cette assimilation, il résulte que, notamment le doré, est une couleur chaude, comme le soleil. Et chez les Grecs, l'or symbolise tous les bienfaits du soleil, amour, fertilité, chaleur et lumière. On connaît les pommes d'or. Le 11e des travaux d'Hercule consistait à rapporter ces fruits d'or d'un arbre du jardin des Hespérides, le jardin d'immortalité réservé aux dieux. Et puis Apollon, dieu de la lumière et du soleil, est blond comme le blé et ardent comme le soleil. Les flèches de son arc symbolisent des rayons solaires. Il est revêtu et armé d'or. Zeus, Dieu du ciel, le roi des dieux, se transforme lui-même en pluie d'or pour séduire Danaï et lui donner un fils. Et il faut parler aussi de l'empereur de Chine, parce qu'au centre de la terre, il est comme le soleil, au centre du ciel. Donc, bien sûr, il en a la couleur. Alors, par extension, le doré est la couleur métaphorique de tout ce qui est admirable. Chez nous, les noces d'or célèbrent 50 ans de mariage. On dit avoir un cœur d'or, c'est être généreux. Une personne en or est une personne pleine de qualités, douce et agréable. Ce doré aussi manifeste la présence de Dieu puisqu'il est assimilé au soleil que l'on ne peut regarder et donc que l'on ne voit pas. On le trouve dans beaucoup de religions, dans les cultures juives et chrétiennes. Le doré symbolise la lumière de Dieu, la tête de Jésus, des saints et des anges, est nimbée d'une auréole dorée. De même, le fond des icônes byzantines et de beaucoup d'œuvres d'art chrétiennes occidentales est doré. Vous connaissez les mosaïques de Ravenne et de Palerme. En peinture aussi, fond et ciel doré des primitifs italiens du XIe et du XIIe expriment que la lumière est divine.
On voit bien que ces représentations artistiques lient intimement soleil, lumière et or.
Tout à fait. On ne peut parler de doré sans parler de l'or. L'or a été recherché très tôt dans l'histoire de l'humanité pour sa beauté et sa symbolique spirituelle, divine et royale. Il ne sert pas d'outil ou d'arme parce que c'est un métal assez mou. Par contre, depuis la plus haute antiquité, on l'utilise comme matériau de bijoux, d'objets de culte comme le ciboire, reliquaire ou d'objets rituels comme la faucille d'or des druides qui sert à couper le gui sacré, les couteaux artificiels et le couteau de circoncision de certains peuples sémites. Ce doré, qui est en fait la couleur de l'or, eh bien il en a toutes les qualités. Alors quelles sont-elles? C'est le métal le plus pur connu depuis l'Antiquité, inaltérable, le seul à ne pas donner d'allergie. Il ne se rouille ni ne se souille. L'or, ensuite, est le métal le plus rare, ce qui en fait, bien sûr, le plus précieux, encore un atout, pour être associé au soleil. On connaît l'or noir, qui est le pétrole, l'or bleu, le pastel du pays de Cocagne, dont on a parlé, l'or rouge, le safran, l'épice la plus chère au monde. Vous vous souvenez qu'il faut 5 kilos de pistil pour obtenir 1 kilo de safran. Et aussi, il faut se souvenir que l'or est le métal ésotérique. Par excellence, au Moyen-Âge, les alchimistes pensaient que l'or, secret le plus intime sur Terre, l'enfant des désirs de la nature, comme disent joliment les Chinois, devait changer le cours des choses. On comprend qu'ils aient longtemps cherché à transmuter le plomb en or.
Mais si l'alchimie n'a pas atteint son but, on pourrait dire que l'esprit humain, quant à lui, a transmis les qualités de l'or à la couleur dorée, dans le sacré comme dans le profane.
Exactement. Alors voyons quelles sont ces qualités dans le sacré, notamment l'inaltérabilité de l'or en fait un matériau d'immortalité, éternel comme les dieux, splendide comme le soleil à son zénith. En Chine et en Inde, on a préparé des drogues d'immortalité à base d'or. Et pour les Égyptiens, l'or est la chair du soleil et par extension des dieux et des pharaons auxquels ils confèrent une survie divine. Son masque funéraire est en or et les chambres funéraires sont peintes en jaune d'or pour assurer la survie de l'âme. Ra, le dieu du disque solaire, bénit la terre de son sperme solaire, c'est-à-dire les rayons du soleil. Ce doré, lié avec le monde divin, est aussi symbole de connaissance. En Inde, le doré et lumière minérale, on représente donc Bouddha en or, signe d'illumination, de la perfection absolue, de l'immortalité comme en Chine. Et chez les Aztèques, l'or est l'excrément du dieu soleil, Huitzilopochtli, peint en jaune d'or et en bleu. L'or y est associé à la peau neuve de la terre quand elle va reverdir au début de la saison des pluies. C'est pourquoi la divinité de la pluie printanière est aussi le dieu des orfèvres, vous voyez, on lui sacrifiait les victimes et les prêtres se revêtaient de leur peau teinte en jaune comme la feuille d'or. Et troisième aspect important de ce doré, l'or est, est lié à la noblesse, au pouvoir. Dans le monde chrétien, on le sait, l'or est l'attribut de la puissance des rois, des princes et des empereurs pour proclamer l'origine divine de leur pouvoir. Le doré concrétise la conjonction entre spirituel et temporaire. C'est la lumière céleste qui est révélée aux hommes à travers l'éclat du soleil sur la terre.
Dans le drapeau du Vatican, le jaune et le blanc donnent leur tonalité aux insignes de la papauté. La tiare a trois couronnes et les deux clés d'or et d'argent. Dans le monde religieux, le doré est partout dans les ornements sacerdotaux, avec les broderies dorées. Qu'en est-il dans le monde profane ?
Oui, ça, son image est très très importante. Et la première, c'est que l'or est lié, bien sûr, à la richesse. La médaille d'or correspond à la première place. Rouler sur l'or veut dire être riche. C'est une vraie mine d'or, définit quelque chose de très lucratif, à prix d'or extrêmement cher, valoir son pesant d'or, valoir très cher.
En décoration, l'or est très présent à Versailles pour faire riche et beau. Dans le baroque et le rococo, les églises baroques sur le Rhin, les statues dorées sur surface blanche donnent tout à fait ce sentiment-là.
Oui, oui, c'est un très beau spectacle et c'est pourquoi l'or est lié à la fête et au luxe. Les décorations dorées brillent à Noël. Un champagne est né, je ne l'ai pas goûté, mais il contient des morceaux de feuilles d'or que l'effervescence fait danser. S'il est aussi beau que bon, c'est bien, les femmes aussi raffolent en ce moment de l'huile pailletée qui irise leur peau. Alors cet or évoque le rêve, l'idéal. Un Éden habité par des gens heureux, un pays de cocagne, un trésor comme l'âge d'or, ce premier monde, celui de l'innocence, où règne paix et justice. Ou bien ça évoque aussi l'Eldorado, le pays de l'or qui a causé les ruées vers l'or du 19e et la colonisation de l'Amérique latine. Et puis enfin, l'or aurait une valeur fortifiante. Les sels d'or sont utilisés en thérapeutique et les aiguilles d'acupuncture en or de la médecine chinoise sont supposées tonifier. Diane de Poitiers avait ses recettes. Elle devrait le maintien de sa jeunesse et de sa beauté à un bouillon composé d'or dont elle usait tous les matins. Peut-être pourrait-on essayer cette bonne recette. Peut-être ce doré est-il conçu comme une bonne recette aussi pour créer une antidote contre la morosité et la gravité de la crise. C'est l'idée peut-être de certains défilés de haute couture qui l'ont créé dans la splendeur du doré. Tout était doré, depuis les cartons d'invitation, le décor, le détail des vêtements. Une stratégie ? Comme dorer la pilule à quelqu'un, c'est-à-dire faire accepter quelque chose à quelqu'un en embellissant la réalité.
Nous parlons là d'un doré bien sympathique. N'y a-t-il pas quelques côtés plus négatifs ?
Voilà, comme d'habitude, malheureusement, le doré est ambivalent. Et il est du reste perçu de façon inégale dans tout le monde. Il est très apprécié par les pays du Nord, plus que par ceux du Sud. Et puis, il faut dire que cette lumière dorée, en fait, ça peut être une arme de lumière, parce qu'elle éblouit. Donc le doré comporte aussi sa part d'ombre. On peut parler de la poule aux œufs d'or, une affaire très lucrative dont la pérennité est souvent remise en cause.
On dit aussi « tout ce qui brille n'est pas d'or ». Cage dorée ne nourrit point l'oiseau. Mort dorée ne rend pas le cheval meilleur.
Oui, ça pourrait être un jeu que de continuer. Moi, je vais continuer. Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. Bon, on va s'arrêter là parce que dans la pratique, il faut constater que le doré est le pire et le meilleur. Prenons l'exemple en décoration. Par petites touches, il égaye, donne de l'éclat, un côté festif. Sa vue réchauffe le cœur et l'esprit. On se sent en sécurité dans un univers doré car il nous ramène à l'aisance matérielle. Mais attention, il éblouit et s'il est trop présent, on bascule dans le kitsch, dans le bling-bling. Et j'aimerais bien prendre un exemple tout à fait représentatif, c'est celui de l'islam qui illustre l'ambivalence du doré. Les alchimistes arabes l'utilisaient et en médecine, il était censé soigner des maladies comme celle des yeux, des palpitations du cœur. Mais le prophète interdit aux musulmans de manger et de boire dans de la vaisselle d'or et d'argent. Et lorsque l'or est monnaie, alors il devient un symbole de pervertissement et d'exaltation impure des désirs.
Alors en conclusion, et de ce doré ne gardons que le bon.
Exactement, j'ai envie de dire brillons, brillons, c'est tout le propos du doré. Regardez le miel comme il s'éveille dans le soleil. Il lance des reflets dorés. Profitons de la lumière dorée. Elle nous offre sa force, sa chaleur. Elle nous illumine de sa joie. Et il faut le croire, nous vivrons un éternel âge d'or.
Merci Béatrice Vial-Collet. Vous êtes peintre, coloriste, ne l'oublions pas. Et si vous voulez en voir plus, visitez le site de Béatrice Vial-Collet. Tapez le nom sur Google, comme ça vous aurez le son et l'image.